Dixième aventure. Comment Renard trouva la boîte aux oublis et comment Primo, ordonné prêtre, voulut sonner les cloches et chanter la messe, ce que l'on estima fort étrange. Certains prêtres, un jour, traversaient la plaine, portant devant lui sur sa poitrine une boîte remplie de ces gâteaux légers, connus sous le nom d'oublis, que l'on découpait plus tard pour en faire des pains à chanter. Au bout de la plaine était une haie. Le prêtre, en la traversant, avait laissé tomber la boîte aux oublis et ne s'en était pas aperçu. Renard arrive, trouve la boîte et l'emporte à travers champ. Quand il se vit dans un endroit écarté, « Voyons, dit-il, ce qu'il y a dedans. » Il ouvre, trouve plus de 100 oublis et les mange toutes, à l'exception de 2 qu'il garde pliées en double entre ses dents. Il n'eut pas fait 20 pas qu'il aperçut Dame Primo venant à lui d'un pas rapide comme s'il le reconnaissait. « Renard, dit-il, sois le bienvenu. Et vous, Dame Primo, Dieu vous garde et vous donne bonjour. Peut-on savoir d'où votre seigneurie accourt si vite ?»« Je viens du bois où j'ai chassé longtemps sans rien trouver. Mais que portes-tu là ?» Renard. « De bons et beaux gâteaux d'église, des oublis. » Primo. « Des gâteaux ? Où les as-tu découverts ?» Renard. « Mais apparemment, où ils étaient ? Ils m'y attendaient, je suppose. » Primo. « Ah, cher ami, partageons, je te prie. » Renard. « Je vous les donne, et je vous les donnerai, quand même ils vaudraient 500 livres. » Primo ayant mangé les oublis de grand cœur. « Renard, sais-tu que ces gâteaux sont fort bons ? En as-tu d'autres ? » ?»« Non, pour le moment. » »« Eh bien, j'en ai regret. » Car par Saint-Germain et l'âme de mon père, je sens une faim horrible. Je n'avais rien mangé d'aujourd'hui, et malgré tes oublis, je me sens prêt à défaillir. Prenez, dit Renard, un peu de courage. Vous voyez là-bas ce moutier ? Allons-y, nous y trouverons autant d'oublis que nous voudrons. Ah, cher ami Renard, s'il en était ainsi, j'en serais reconnaissant toute ma vie. Laissez-moi faire et vous allez être content, je le promets sur ma tête. « Marchez devant, je suivrai. » Il court et bientôt arrive devant le moutier que desservait le prêtre à la boîte d'oubli. La porte était fermée. Il creuse la terre sous les degrés de l'entrée et pratique une ouverture. Les voilà dans l'église. Sur l'autel se trouvent des oublis recouvertes d'une blanche serviette. Enlever le linge et dévorer les gâteaux fut pour Primo l'affaire d'un instant. « En vérité, frère Renard, ces gâteaux me plaisent beaucoup. Mais plus j'en ai mangé, et plus j'ai souhaité d'en manger encore. Quelle est cette huche, l'après ? Ne contiendrait-elle pas quelque bonne chose ? Voyons, ouvrons-la. » »« Je ne demande pas mieux. » Ils vont à la huche. Primo, le plus fort et le plus avide, en brise la fermeture. Ils y trouvent du pain, du vin et de bonne viande. « Dieu soit loué, dit Primo. » Cela vaut encore mieux que les oublis, et nous avons de quoi faire un excellent repas. Tiens, Renard, va prendre la nappe de l'autel, étends-la ici et apporte-nous du sel. L'honnête homme que ce prêtre pour avoir si bien garni la huche. Voilà tout préparé, mangeons ce que Dieu nous envoie. » Parlant ainsi, Primo tirait les provisions. Elles furent posées sur la nappe, et, tranquilles comme dans leur propre demeure, les deux compagnons s'assirent et mangèrent à qui mieux mieux. Mais si Renard ne jouait pas un mauvais tour à Primo, il en aurait une honte mortelle. « Cher ami, dit-il, je suis ravi de vous voir en si bon point. Versez et buvez, nous n'avons personne à craindre. »« Oui, buvons, répond Primo, il y a du vin pour 3. » Cependant, à force de hausser le bras, la tête de Dame Primo s'embarrasse, et Renard, tout en se ménageant, continuait à l'exciter. « Ça, disait-il, nous ne faisons rien. » « Vous buvez à trop petits coups, je ne vous reconnais pas. »« Comment je lampe sans arrêter ?» répond l'autre en bégayant. « Fais-moi raison, mon cher, mon bon ami Renard. Je veux boire plus que toi. »« Oh, vous n'y arriverez pas. »« Moi ? Songez que j'ai 10 coups en avance. »« Ah, Renard, tu ne dis pas la vérité. Tiens, Eve. » « Drink ! Toi, mieux boire que moi. Je viderai plutôt les 2 coupes à la fois, la tienne et la mienne. » Renard faisait semblant de boire, mais laissait couler le vin dans ses barbes. L'autre n'y voyait plus rien. Il buvait, buvait toujours, les yeux hors du front, rouges comme deux charbons embrasés. Il n'est pas de rêverie qui ne lui passe par la tête. Tantôt, il se croit le roi noble entouré de sa cour, au milieu de son palais. Tantôt, il pleure ses vieux méfaits et se déclare le plus grand pécheur du monde. « Renard, dit-il, j'ai une idée. Dieu, en nous conduisant ici, doit avoir eu ses desseins sur nous. Si nous allions à l'autel chanter la messe, le missel est ouvert, les robes du prêtre sont à côté, j'ai appris à chanter quand j'étais jeune, et tu vas voir si je l'ai oublié. » Mais, dit Renard, il faut avant tout se garder de sacrilège. Pour chanter à l'autel, on doit être prêtre, ou pour le moins clerc couronné. Tu ne l'es pas, Primo. En vérité, tu as raison, Renard. Mais on y pourvoira. On y pourvoira. Ne pourras-tu pas me faire la couronne qui me manque ? D'ailleurs, on peut renoncer à la messe. Je n'ai pas besoin d'être tonsuré pour dire vigile et vêpre. Non, mais pourtant, il vaudrait mieux te donner tout de suite les ordres. Moi, je puis fort bien le faire, car au temps passé, j'ai étudié pour être prêtre et je suis au moins diacre. Si donc je trouvais un rasoir, je te couronnerai, je te passerai l'étole autour du cou et je te déclarerai prêtre, sans avoir besoin de notre Saint-Père le Pape. En attendant, dit Primo, rien ne nous empêche de chanter les vêpres. Les deux amis avancent vers l'autel, Primo en longeant les murs pour y trouver le point d'appui dont il a grand besoin. Tout en l'accompagnant, Renard regardait de côté et d'autre. Derrière l'autel des pèlerins, il avise une armoire et, par bonheur, il y trouve un rasoir effilé, un clair bassin de laiton et des ciseaux. « Voilà, dit-il, tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons plus besoin que d'un peu d'eau. » Primo avait la langue trop embarrassée pour répondre. L'autre, cependant, reconnaît, sous la tour des cloches, la pierre du baptistère. Il épuise de l'eau et, revenant à son compagnon, « Voyez, Primo, le miracle que Dieu vient de faire pour vous. Regardez cette eau. »« C'est, dit Primo, que du Dieu prend en gré notre service. Allons vite, ma couronne. Décidément, je veux chanter la messe. » Il s'étend sur les dalles et Renard, lui tenant d'une main la tête, verse de l'autre l'eau du bassin. Primo supporte tout sans broncher, et Renard, profitant de sa bonne volonté, lui élargit la couronne jusqu'aux oreilles. « Ai-je tonsure maintenant ?»« Oui, tu peux la sentir toi-même. »« Me voilà donc vrai prêtre. Allons tout de suite à la messe. Commençons. » Mais auparavant, il faut sonner les cloches. « Laisse-moi faire. » Il va aux cloches, saisit les cordes et se met à sonner à glas et à carillon. Renard est pris alors d'une telle envie de rire que la mort de tous ses parents ne la lui aurait pas ôtée. Il se cache comme il peut sous les barbes de son manteau et lui crie « Bon, bon, plus fort, toujours plus fort !»« Je crois qu'il n'y a pas un clerc, un marguillier capable de mieux sonner. » Mais il faut prendre les deux cordes ensemble, les clochettes ne font pas leur office. Est-ce mieux comme cela ? Oui, oui, maintenant à l'autel. Je vais vous aider à passer l'aube et l'aumus, la ceinture, le fanon et l'étole. Puis, entre ses dents, oh, comme il chantera tout à l'heure autrement, comme on va lui caresser d'une autre façon les côtes. Primo, la chasuble sur le dos, monte à l'autel, ouvre le missel, tourne et retourne les feuillets. Il pousse des hurlements qu'il regarde comme autant de traits mélodieux. Cependant, Renard, croyant le moment arrivé de déguerpir, se coule sous la porte par le trou qu'ils avaient pratiqué, rejette la terre qu'ils avaient enlevée, ferme l'ouverture et laisse Primo braire et hurler tout à son aise. Or, comme on le pense bien, le son des cloches arrive au presbytère. Le prêtre, étonné, saute à bas de son lit, approche du feu la chandelle qu'il allume, appelle Gilles son clerc, son chapelain et sa femme, se munit d'un levier, prend la clé du moutier, ouvre la porte et s'avance avec inquiétude. La dame s'arme d'un pilon, le chapelain d'un fouet et le clerc d'une massue qui lui donne quelque chose de l'air et de la démarche d'un énorme limaçon. Le prêtre fut le premier à distinguer devant l'autel d'où partaient les cris un personnage tonsuré, en chasublé, dont il ne peut reconnaître les traits. Il recule, il revient à plusieurs reprises. Enfin, il s'imagine avoir affaire au diable et se sent pris d'une telle épouvante qu'il en perd connaissance. La prêtresse pousse les hauts cris et le clerc se sauve dans la ville en criant de toutes ses forces. « Alarme ! Alarme ! Les diables sont entrés dans le moutier ! Ils ont tué monsieur le curé et nous avons eu grand-peine à nous sauver !» Les vilains, réveillés en sursaut, se lèvent, s'habillent et tous se portent vers le moutier. Il fallait les voir alors. L'un a endossé son haubert de cuir, l'autre a coiffé son vieux chapeau de fer enfumé, celui-ci a tiré du fumier sa fourche encore humide, celui-là s'est fait accompagner de ses chiens, d'autres brandissent des épées rouillées, dressent des bâtons, des fléaux, agitent des haches, des massues. Tous enfin se préparent à lutter rien que contre les diables de l'enfer. Le prêtre était revenu à lui. « Oui, mes enfants, leur dit-il, le diable est dans l'église, il faut lui courir sus. » Le bruit de la foule interrompt la messe de Primo. Il se retourne, s'étonne, la peur le prend et le dégrise. Il court au trou, il était fermé. Il revient à l'autel, il va, vient, de plus en plus effrayé. Le prêtre, lui voyant l'oreille basse, le frappe de son levier. Furieux, Primo se jette sur l'agresseur et l'aurait mis en pièces si les vilains lui en avaient laissé le temps. Tous alors le huent, le daubent, lui brisent les reins, lui enlèvent la moitié de l'échine. Le pauvre Primo fait alors un suprême effort. Il mesure des yeux une fenêtre ouverte, fait un élan, l'atteint du premier saut et s'échappe enfin de l'église. Criblé de blessures, il n'a d'autre consolation que les vêtements qu'il emporte et c'est dans ce costume qu'il gagne le bois et qu'il rend grâce à Dieu de lui avoir conservé la vie. « Maudit soit le prouvaire ! Il me paiera cher un autre jour tous les coups que j'ai reçus. Je jure Ermengarde, ma femme, de ne rien laisser ici, ni vache ni brebis. S'il a demain à chanter messe, qu'il cherche celui qui lui rapportera son étole et son humus. Il faudra qu'il emprunte pour l'office la jupe de la prêtresse et qu'il fasse une aube de sa guimple. Mais Renard, qu'est-il devenu ? C'est lui pourtant qui me conduisit au moutier et qui m'a laissé après m'avoir mis dans l'embarras. Ah, si je le retrouve, je n'irai pas porter ma plainte à la cour du roi noble. Je me ferai justice moi-même et je l'empêcherai d'essayer jamais des tours pareils. Mais j'aurais dû me tenir pour défier et l'exemple de mon frère Isengrin pouvait bien me tenir lieu d'avertissement. » Parlant ainsi, il découvre sous un chêne Maître Renard qui, l'air contrit, les yeux larmoyants, semblait arrêté pour l'attendre. « Ah, vous voilà donc enfin, sire Primo, dit-il. Soyez le bienvenu. »« Et moi, dit Primo, je ne vous salue pas. » « Pourquoi ? Quel mal ai-je donc fait ? Vous m'avez laissé seul et sans m'avertir, vous avez fermé la trouée du moutier. Ce n'est pas votre faute si je n'ai pas été assommé. Il a fallu me défendre contre une centaine d'ennemis acharnés. Méchant nain, roux infâme ! Ah, si je ne suis pas le premier, je pourrais bien être le dernier de ceux que vous aurez trahis. » Sire Primo, répond Renard d'une voix suppliante, « je vous crie merci. » Je sais que dans ces lieux écartés, vous pouvez me faire honte et préjudice. Mais j'atteste Hermeline, ma chère femme, Malebranche et Perseu et mes deux fils, que je ne me souviens pas de vous avoir offensé. Ce n'est pas moi qui ai fermé le pertuis, c'est le méchant Prouvaire. J'eus beau le supplier de s'en défendre, il me répondit par des menaces, si bien que, le voyant prêt à me faire un mauvais parti, je n'eus plus qu'à me sauver par un petit sentier couvert que je connaissais. Je vous attendis sous ce chêne, inquiet de ce que vous alliez devenir, car je prévoyais avec chagrin qu'on vous attaquerait. Telle est la vérité, je sanglotais encore au moment où vous êtes arrivé. » Ces paroles firent tomber la colère de Primo. « Allons, Renard, je veux bien vous croire et ne garder de rancune que contre le Prouvaire, dont j'emporte au moins, comme vous voyez, l'aube, l'aumus, la chasuble, le fanon et la ceinture. Il en cherchera d'autres quand il voudra chanter messe à son tour. Or, savez-vous, dit Renard, ce qu'il y aurait à faire ?
Non.
Il faudrait demain porter ses vêtements à la foire et les vendre, fût-ce au prouvaire lui-même s'il s'y présente.
Voilà qui est bien pensé, dit Primo. Mais d'abord, reposons-nous, car je suis gravement meurtri et harassé. Quand nous aurons bien dormi, nous parlerons de la foire. Nous y porterons les habits et nous en aurons, j'imagine, un assez bon prix.
Je le crois comme vous, répondit Renard. Et qui sait si nous ne trouverons pas moyen de nous venger de ceux qui vous ont tant maltraité pour vous punir de votre zèle au service de Dieu.